Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Lievin Mwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord les titres de cette édition. Les lampions du 19e sommet de la francophonie se sont éteints avec cette exigence d'Emmanuel Macron, le retrait du M23 et des troupes rwandaises du territoire congolais. Le président français a lancé ces mots samedi à Paris au cours de la conférence de presse marquant la clôture du sommet, à suivre dans un court instant. Et puis c'est parti avec la première phase de la campagne de vaccination contre la variole de singe ce lundi au Nord Kivu. Le lancement officiel a eu lieu samedi à Goma. Notez que plus de 48 000 personnes sont attendues. Une autre campagne, c'est celle organisée par le Centre neuropsychiatrique de la Congrégation des Frères de la Charité à travers le pays. Elle vise, elle, à sensibiliser les mesures de prévention des maladies mentales. Le médecin chef de staff de ce centre, Dr Philippe Talaja, est notre invité. Emmanuel Macron appelle au retrait du M23 et des troupes rwandaises du territoire congolais. Le président français l'a dit samedi à Paris au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue du 19e sommet de la francophonie. Nous encourageons la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux. Pour ce qui est de la France, nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et de tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine, a déclaré Emmanuel Macron. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et à tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine. Nous appelons à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc nous souhaitons une approche globale pour régler le conflit en profondeur. C'est ce que j'ai évoqué avec les deux présidents successivement. Il n'a pas été souhaité une réunion à trois que j'appelais de mes voeux. Je pense que la situation est encore trop tendue. Néanmoins, je note que le cessez-le-feu et que la situation sur place s'est un peu améliorée par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs semaines et plusieurs mois. Elle est évidemment très précaire et donc nous allons continuer de nous engager sur la base des quelques principes que nous avons toujours tenus et que je réitère ici et aux côtés de la médiation angolaise pour que cette situation puisse progresser. Elle suppose des efforts de part et d'autre. Ils sont indispensables, mais très clairement, il n'y a pas de double standard dans la diplomatie de la France. Et donc nous sommes attachés à la souveraineté et l'intégrité territoriale partout.
Autre actualité, opération retour de plusieurs déplacés en cours dans certaines agglomérations du sud du territoire de Lubero, ceux-là même qui avaient fui en juin 2024 l'occupation et l'avancée du M23. Ils rentrent progressivement chez eux par vagues dans ces coins du Nord Kivu. Le président de la société civile locale précise que ce mouvement de retour a débuté en août dernier. D'après Muindo Tatoufeni, les conditions de vie précaires ont contraint ces déplacés à revenir, y compris dans les zones encore sous contrôle des rebelles. Muindo Tatoufeni s'exprime ici au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Le retour est constaté à partir du mois d'août du fait que les conditions de vie de ces déplacés ne sont pas vraiment faciles. Les déplacés trouvent mieux vérifier ou suivre de près les réalités du terrain. Et surtout, les déplacés qui sont venus de la zone occupée encore par les militaires, surtout Butsorobia, Alimbongo, Kasingiri, Lubango, Bingi, ces déplacés ont quand même cherché à rejoindre encore progressivement leurs milliers. Et là, on peut voir certains qui sont venus de la zone occupée par les M23, aussi comme Kirumba, Kaina, Kanyabayonga, qui ont aussi fait mouvement vers ces entités. Et d'autres qui ont le courage de quitter Butembo, Musienene, Kiambo, Lubero, pour vouloir se caser un peu loin dans leur champ à l'ouest comme à l'est de la zone opérationnelle.
C'est presque la même ambiance, non loin du Nord Kivu. Cette fois en Ituri, plus de 800 familles qui avaient fui leur village dans le secteur de Banyalikilo rentrent aussi dans leur milieu d'origine. Ces déplacés, eux, avaient fui les attaques des miliciens Zaïre et Codeco. Information livrée samedi par les activistes des droits de l'homme actifs dans cette entité. Selon eux, ce mouvement de retour est consécutif à l'amélioration de la situation sécuritaire dans au moins 6 villages récupérés par les FRDC, jadis entre les mains des groupes armés. Ils plaident pour un accompagnement du gouvernement et des organismes humanitaires en vue de l'intégration de cette population qui a presque tout perdu. Martial Kizabiamungu pour le reportage.
Les villages Beba, Mayalibo, Bianda, Galaï et Lodjo, jadis occupés par les groupes armés Codeco et Zaïre, ont été récupérés par les forces loyalistes il y a plus d'un mois, ce qui a permis à ces nombreuses familles de regagner leur milieu d'origine. Selon des activistes des droits humains du secteur de Banyalikilo, malgré cette accalmie, des écoles ne fonctionnent pas jusque-là par manque d'enseignants dont la plupart ne sont encore de retour. Tout en demandant aux familles en déplacement de retourner dans leur village respectif, ces activistes lancent un appel aux autorités et aux humanitaires de venir en aide à ces retournés dont pour les uns, les maisons ont été incendiées, voire saccagées et pour d'autres, les champs ont été dévastés par les miliciens. Atiaboli Filemon, l'un de ces activistes.
Vraiment, c'est de faire la sensibilisation pour que les gens puissent rentrer. Nous avons besoin de nos hommes, les enseignants, les médecins. Vraiment, ce sont des gens qui sont vraiment importants, les autorités, pour qu'ils puissent consulter les ONG, alors qu'on puisse nous aider avec les tôles et ou bien des machettes pour défricher nos champs.
Ces familles de retournés demandent au FRDC de consolider cette accalmie dans toutes ces régions conquises. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Je le disais en titre, Goma vibre au rythme de la campagne de vaccination contre la variole de singe depuis samedi, date du lancement officiel de cette opération qui démarre concrètement ce lundi. Plus de 40 000 personnes sont attendues. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a lancé officiellement cette campagne de 3 jours devant les autorités sanitaires de la province. Objectif de cette opération, rompre avec la chaîne de transmission. Autre information, cette campagne va se dérouler d'abord dans 3 zones de santé les plus touchées de la province, à savoir Goma, Karisimbi et Nirangongo. Denise Lukeso pour d'autres détails.
Pour la conseillère du gouverneur en charge des santé, 14 zones de santé sur les 34 qui comptent la province sont déjà touchées par la Mpox. Les risques restent donc potentiellement élevés au Nord Kivu qui a enregistré jusqu'à ce jour 369 cas confirmés dont 2 décès. Les zones de santé de Goma, Karisimbi et celle de Nyiragongo constituent l'épicentre de l'épidémie.
Les taux de mortalité étant de 5 à 25% avec une moyenne de 10%. Cette maladie mérite donc une attention particulière de tout un chacun et nécessite l'engagement de tous les secteurs sociaux pour une réponse efficace concertée. Faisons-nous vacciner, respectons les mesures d'hygiène et nous contribuerons sûrement à rompre la chaîne de transmission.
Notons que 2 doses seront administrées chez les adultes et 1 dose chez les enfants de moins de 18 ans. Cette première phase va aller du 7 au 10 octobre prochain, soit 3 jours. Cette première phase concerne d'abord les personnes prioritaires, les personnes de santé, les déplacés de guerre, les bouchers, les professionnels de sexe, les agents au point d'entrée et de contrôle et les vétérinaires, pour ne citer que celles-ci. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Retour encore une fois sur le drame du MV Merdi à Goma qui reste encore gravé dans nos mémoires avec l'arrivée dans cette ville du Nord Kivu hier dimanche du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Il est à Goma pour faire le point de la situation exacte sur le naufrage et l'examen de la poursuite des recherches du bateau qui se trouve encore au fond du lac. Jacquemain Chabani Louko déclare, je cite, « Nous venons de faire le constat par rapport à la situation sur le terrain. C'est pour comprendre comment et quelles sont les responsabilités afin de prendre des mesures urgentes pour que cette situation ne se répète plus. » Fin de citation. Reportage avec vous Blaise Makassi.
Le ministre de l'Intérieur est à Goma pour renforcer l'équipe gouvernementale qui l'a précédé avec les autres responsables du Nord et du Sud Kivu. L'objectif premier, explique-t-il, c'est de mettre en place des mécanismes pour retrouver les compatriotes qui sont encore coincés sous les eaux, dans le bateau qui a fait naufrage et aussi voir comment enterrer les victimes. Aux familles des victimes, il a promis de donner des conclusions des différentes réunions pour qu'elles soient au courant des décisions prises et sachent pourquoi il y a eu ces naufrages, qui sont les responsables et quelles sont les mesures urgentes qui seront prises pour que cette situation ne se répète plus. Sur place, l'équipe conjointe des plongeurs, Force Navale et SADEC a pu localiser le bateau qui se situerait à 200 mètres de profondeur des eaux du lac. Le bilan provisoire de ce drame est des 34 morts, 80 rescapés. Le ministre Chabani est la deuxième personnalité du gouvernement à conduire une visite sur le terrain après celle conduite par la ministre des Affaires sociales.
Place à présent à ce plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination contre la polio et la maladie de monkeypox au Kwilu, dans l'ex-Bandundu. La division provinciale de la santé a organisé vendredi dernier une réunion dans ce sens aux côtés des autorités politico-administratives, des opérateurs économiques, des responsables et des entreprises tant publiques que privées au gouvernorat de Bandundu. Cela avec pour mission de les inviter à soutenir financièrement ou matériellement les activités de la campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue du 10 au 13 octobre et les activités de lutte contre l'épidémie à monkeypox qui sévit dans la province. Le ministre provincial de la Santé, qui a représenté le gouverneur de province à ses assises, Dr Arnold Kapalati, précise que le Kwilu a déjà notifié jusqu'à ce jour plus de 220 cas de monkeypox, dont 9 décès. Il est au micro d'Irène Mboma Luzolo.
J'étais en train de faire une plaidoirie auprès de partenaires, auprès de la communauté, des leaders communautaires, pour ce contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement dans la province. Nous sommes terrassés par l'épidémie de pox. Nous sommes déjà à 220 cas notifiés, dont 9 décès. Et nous devons aussi organiser une campagne de vaccination du 9 au 13 décembre. La vaccination contre la poliomyélite. C'est pourquoi nous avons cherché à faire atteindre l'information à tous les niveaux et à tout le monde. Voilà, ça a été l'objet de cette plaidoirie, non seulement de chercher un appui local sur le plan matériel comme financier, un appui qui est complémentaire bien sûr, puisque le partenaire a apporté son appui, le gouvernement a apporté aussi son appui. Cette réunion, c'est juste pour suppléer des gaps dans notre organisation, ces gaps qui pouvaient être matériels comme financiers. En dépit de tout ce que nous avons reçu auprès du gouvernement comme auprès du partenaire, ça voulait sensibiliser aussi notre population de pouvoir s'engager.
Autre actualité, pour être encore et encore plus près de vous, auditeurs, Radio Capi débute cette semaine une série de reportages sur les priorités de la population en rapport avec le budget 2025, la répartition équitable des ressources du pays et la lutte contre les inégalités sociales. Dans ce premier numéro, notre reporter nous présente le projet du budget 2025 ainsi que ses grandes affectations en dépenses. Déposé le 16 septembre dernier, le budget 2025 est estimé à plus de 18 milliards de dollars américains. Mais comment est-il réparti? Réponse dans ce reportage signé Michel Kifindangoy.
Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de plus de 49 milliards de francs congolais, soit 16,9 milliards de dollars, ce qui fait un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget voté de l'exercice 2024. D'après les prévisions des dépenses, 49% du budget 2025 sont constitués des dépenses courantes, 48% des dépenses d'investissement et 3% des dépenses exceptionnelles, souligne la première ministre Judith Suminwa.
On a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières.
Notez que les dépenses courantes comprennent la dette publique, les frais financiers, les rémunérations, le fonctionnement des institutions ainsi que les transferts et subventions qui prennent en tout près de 49% du budget national.
Actualité internationale.
Israël-Gaza, 7 octobre 2023, le jour où une nouvelle guerre a débuté. Il y a un an, jour pour jour, Israël vivait l'attaque la plus meurtrière de son histoire et le début d'une nouvelle guerre dans la bande de Gaza, d'un embrasement en Cisjordanie occupée et d'une escalade sans précédent du conflit dans la région. Entre-temps, Israël a poursuivi ses bombardements au Liban, continuant de viser la banlieue sud de Beyrouth, où 30 frappes ont été recensées dans la nuit de samedi à dimanche.
L'invité.
Le centre neuropsychiatrique de la Congrégation des Frères de la Charité organise à travers le pays la campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention de maladies mentales. Cette activité est menée en prélude de la Journée internationale de la maladie mentale célébrée le 10 octobre de chaque année. Invité de Radio Capi, le médecin-chef de staff de ce centre, Dr Philippe Talaja, recommande au gouvernement d'intégrer la lutte contre les maladies mentales dans le système de santé primaire en vue de renforcer la prise en charge des patients. Il est interrogé par Blaise Ndongala Mayanda.
Docteur Philippe Talaja, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
En prélude de la Journée internationale de la maladie mentale, vous organisez une série de campagnes de sensibilisation sur les mesures de prévention de cette maladie. Comment définissez-vous d'abord une maladie mentale?
Merci beaucoup. La santé mentale est définie comme l'ensemble des ressources sociales, personnelles et physiques permettant à l'individu de réaliser ses aspirations et de satisfaire ses besoins. Selon l'OMS, la santé est définie comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. Alors, quatre faits principaux sont relatifs à la santé mentale, lesquels? La santé mentale fait partie intégrante de la santé. En effet, il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale est plus que l'absence de troubles mentaux. La santé mentale est déterminée par des facteurs ci-après, facteurs sociaux, facteurs psychologiques et les facteurs biologiques.
Y a-t-il des facteurs de risque de contracter une maladie mentale?
Oui, évidemment, il y en a.
Lesquels?
Il y a les facteurs sociaux, il y a les facteurs psychologiques, les facteurs biologiques. Sur le plan social, tout environnement social, familial ou professionnel, source de stress, maltraitance, carence affective, négligence, violence physique et psychologique, abus sexuels, conditions de travail difficiles, deuil, isolement et précarité, discrimination et stigmatisation, guerre, catastrophe naturelle font partie de facteurs sociaux qui sont à la base de la maladie mentale. Alors, les facteurs maintenant psychologiques, toute dimension de la personnalité, c'est-à-dire tempérament et caractère. Alors, le dernier facteur important aussi, c'est facteurs biologiques, antécédents personnels ou familiaux, des pathologies médicales, chroniques, psychiatriques ou non psychiatriques, exposition à des facteurs de risque perturbant le neurodéveloppement. Au moment de la grossesse, ce que nous appelons exposons les 1000 premiers jours de l'enfant, les 9 mois de la grossesse et les 2 ans et demi, voire 3 ans avant que l'enfant parte normalement, ou plus tard, à l'âge adulte, avec usage des substances psychoactives.
Là, nous faisons allusion justement à la consommation d'alcool et aux produits tabacicoles, n'est-ce pas, docteur?
Évidemment, la consommation abusive des substances psychoactives telles que l'alcool, les tabacs, les cannabis et différentes drogues actuellement, héroïne, cocaïne, il y en a diverses, sont à la base des maladies.
Alors docteur, quels sont les différents symptômes de ce type de maladie?
Merci beaucoup. Les différents symptômes de type de maladie sont les suivants. Tout changement de comportement professionnel ou familial d'un individu, que ce soit homme, femme, enfant ou adulte, c'est un signe ou symptôme de la maladie mentale. Exemple aussi, négligence de l'hygiène corporelle, isolement social, agressivité, agitation, instabilité, déclin intellectuel, inefficacité au service, incompréhension, perception erronée, ce qu'on appelle les hallucinations. Quelqu'un dit que je vois les gens ou soit j'entends des voix qui me disent de faire les actes.
Est-ce qu'il y a des mesures de prévention des maladies mentales?
Nous avons ce qu'on appelle les préventions primaires. Consiste par exemple à diminuer l'exposition à des facteurs de risque et à promouvoir les comportements de santé afin d'éviter la survenue du premier épisode de maladie. Elle vise aussi globalement à améliorer la qualité et les conditions de vie des individus. Pour ce qui est de la prévention secondaire, c'est-à-dire ceux qui sont déjà malades, pour ce qui est de la prévention tertiaire, là c'est pour prévenir, afin qu'ils ne tombent pas malades, et là, doivent suivre les principes de prise en charge des malades mentaux. Tout le temps qu'ils viennent à l'hôpital, il faut qu'ils respectent les rendez-vous des médecins neuropsychiatres pour prévenir les rechutes de l'air. Pour bref, nous, acteurs de la santé mentale, vu les expériences que nous avons à travers les pays, pour ce moment au centre neuropsychiatrique Dr Joseph Kislin, tous les malades qui nous consultent, ils sont stabilisés et reprennent leurs activités socio-professionnelles dans la communauté.
En marge de la journée mondiale des maladies mentales, qu'est-ce que vous lancerez comme message et à la population et aux autorités politico-sanitaires qui nous suivent à ce moment?
D'intégrer la santé mentale dans le système de santé primaire pour prévenir la survenue des maladies mentales. bonne prise en charge holistique.
Merci, docteur Philippe Ntalaja, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup, mon cher journaliste.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Alain Irung, Jude Bilanda et à Dieudonné Nyangasa.